Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Moi, ce qui me touche beaucoup ces derniers temps, c'est de réaliser de plus en plus que nous vivons dans le chronos, mais Dieu, lui, il est éternel et il est dans le kairos. Et qu'en fait, nous n'avons pas de limite en lui. Et plus ça va, plus le kairos est en train de percuter le chronos. Et ce qui fait que, tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Chaque jour, on peut se réjouir parce que c'est encore le jour du salut. C'est encore ce jour où le sang de Jésus est efficace, où l'alliance est pleinement efficace. Et par la foi, nous pouvons nous saisir de toutes les choses que Dieu met sur son cœur. Là où nous voyons des besoins, là où nos cœurs pleurent, et bien simplement le Seigneur veut nous amener à nous saisir par la foi de ces trésors inépuisables qui sont dans le ciel. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous tous, individuellement, collectivement, comme l'a dit tout à l'heure ce que voyait Alice. Alors Seigneur, merci, merci pour ces prochains moments. Et Saint-Esprit, vraiment, je t'invite, continue à parler à nos cœurs, à nous instruire et à nous emmener plus loin, là où toi tu le veux. Vraiment, merci pour ton œuvre dans nos vies, individuellement et collectivement. Et nous te disons, continue. Continue ton œuvre dans nos vies, dans le précieux nom de Jésus. Alors, eh bien, comme il y a eu ce chamboulement de programme, du coup, on voulait prendre ce temps pour parler un peu de ce qui s'est passé en Allemagne la semaine dernière, je crois. J'ai l'impression que ça fait déjà un mois, parce que nos semaines sont tellement denses. Alors, simplement le contexte, tout d'abord. Parce que tout le monde n'était certainement pas là, on a été invité par Georges Müller et Claudia, qui sont donc juste de l'autre côté du Rhin, et qui étaient venus nous rencontrer, vous vous souvenez, quand on a eu Henning, qui était avec nous. Et ce frère qui est là-bas, il intercède pour sa région, et il intercède pour nous, et il cherchait une église de l'autre côté du Rhin, qui porte avec le même cœur. Ça vous dit rien, ça? N'est-ce pas? Et nous, on a cherché depuis 1995 une église de l'autre côté du Rhin pour pouvoir prier ensemble. Donc simplement, en 1995, il y a eu la première école prophétique qui a eu lieu à Guebwiller. Et à cette première session, donc c'était vraiment un appel de Dieu, cette école de prophètes, parce que moi, c'était Samuel Rhin qui nous avait sollicité, et Luc était aussi convaincu, disait « Mais Dieu commence toujours par prophétiser ». Avant que les choses ne viennent, il faut la parole prophétique qui vienne et qui commence à annoncer. Et donc c'est comme ça que cette école de prophètes est née, et je crois qu'elle a duré 6 ou 7 ans, je ne sais plus. Mais la première année, les deux premières années, nous étions à Guebwiller, au château où il y avait le lycée. Et la première session, il y avait moitié d'allemands et moitié de français. C'était très surprenant. Et cette année-là, il y a eu une parole qui a été donnée, qui pour moi me poursuit, que je vous ai certainement déjà dit plusieurs fois. C'était Lila Kos qui donnait cette parole, et il voyait, le Seigneur lui montrait le Rhin en feu, le fleuve du Rhin en feu, et avec des ponts, et le Seigneur disait, dans la mesure où vous allez vous relier avec vos vis-à-vis de l'autre côté du Rhin, il y aura ce feu qui va vous protéger, qui va protéger cette région du danger qui viendra de l'Est de nouveau. On était en 95. Et depuis, on a énormément travaillé. Je pense que ça nous a pris une quinzaine d'années où on a eu différents contacts avec des églises de l'autre côté du Rhin. Ensuite, après les écoles de prophètes, il y a eu Cibler l'Europe, pour ceux qui ont connu. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a eu Alana avec nous, qu'on a rencontré Alana la première fois, hein, Cibler l'Europe à Lyon. Donc il y a eu ces actions-là, il y a eu les marches, parce que Vito, lui, avait fait partie des intercesseurs de Cibler l'Europe de Strasbourg, et le Seigneur l'avait mis à cœur de faire une marche de prière. Je ne sais plus, je crois qu'on en a même fait deux. Non, on a fait deux fois le tour de l'Alsace, me semble-t-il. Non, mais peu importe, une fois. Et vraiment pour prier, racheter la terre de cette bonne terre d'Alsace pour qu'elle rentre vraiment dans sa destinée. Ensuite, le Seigneur l'avait mis à cœur, bien, que l'on traverse la Suisse, qu'on aille jusqu'à Marseille. Et là, c'était une marche d'intercession pour déboucher les puits de la réforme. Alors, et puis de là, donc toujours le Seigneur qui disait... On a retenu pour moi, c'était toujours, j'ai un peu bassiné tout le monde au niveau du réseau héritage dans lequel nous sommes. À l'époque, il s'appelait pas encore comme ça, qui s'appelait encore l'axe Rhin-Rhône, d'ailleurs. Et en disant, mais quand on est arrivé à Guebwiller, le Seigneur, on a réalisé qu'en fait, on était au niveau des trois frontières. Et on a réalisé cette charge que le Seigneur nous donnait d'être des sentinelles sur ces trois frontières. Et je vais vous épargner tous les détails, mais il y a eu plusieurs fois où le Seigneur disait non, c'est là que je te veux, ici, aux trois frontières. C'est pour ça qu'on a entre autres nos tabernacles des trois frontières. Et on sait que quand on se retrouve ensemble dans la louange, eh bien les chars sont là, la présence de Dieu est là, et Dieu libère ses armées, et il fait ce que lui veut. Nous, on sait pas, c'est pas à nous de lui donner des ordres. Il nous dit simplement, accueillez-moi, faisons-lui de l'espace, ces lieux de repos où Dieu peut venir, et de là, eh bien, il peut simplement accomplir les projets de paix et de bonheur qu'il a, non seulement pour nous, mais pour nos villes, pour nos régions, et pour notre pays. Et donc, on a été invité par Georges parce qu'ils allaient avoir un séminaire qui s'appelle « Racheter la terre ». Et donc, on s'est joint à eux, bien sûr. L'agenda était archi plein, mais j'ai dit « Seigneur, ça fait 35 ans que tu nous as parlé qu'il fallait qu'on se tienne ensemble. Donc, quel que soit l'agenda, bah oui. » Mais je dis « Mais je ne veux pas y aller toute seule. Je veux au moins avoir une personne qui puisse venir avec moi. » Et par la grâce de Dieu, Agnès, qui est pourtant un planning actuellement avec son nouveau travail très chargé, elle avait juste ces trois jours-là libres. Donc nous sommes allés toutes les deux là-bas. Et alors pour lui, c'était vraiment, il nous avait invités pour qu'on puisse prier spécifiquement pour la terre dans laquelle il allait, dans laquelle il va prier régulièrement. Ça s'appelle le Mont Candel. Et alors simplement rappeler, nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs. Et comme on partageait hier avec Agnès, elle disait, ben, on est déjà sacrificateurs pour nos propres vies. Et on peut l'être pour nos régions. Alors, sacrificateur, c'est quoi? Alors, bien sûr, je ne vais pas vous refaire tout l'enseignement de Melchisédek, etc. Mais un sacrificateur, c'est celui qui vient porter la faute, qui vient devant Dieu pour demander pardon à Dieu pour des péchés. Et il y a des péchés qui peuvent être des péchés collectifs, ça peut être des péchés d'une nation, qu'on appelle plutôt des iniquités. Et donc simplement le sacrificateur, comme on le voit dans le modèle d'Israël, eh bien, on vient devant le trône en demandant pardon, en simplement en plaidant le sang de Jésus. Donc d'abord, il y a cette repentance, reconnaître les péchés, les confesser, reconnaître que c'est une ignominie devant Dieu. Ensuite, on plaide le sang de Jésus, parce que la parole est très claire. Elle dit que si on vient à lui et qu'on demande pardon, il est fidèle et juste pour pardonner, et par son sang. Ensuite, on brise les accords qui étaient venus, parce que les péchés, c'est quoi? C'est quand on se met d'accord avec des pensées de l'enfer qui deviennent des accords avec des puissances mauvaises, etc. Donc ensuite, une fois qu'on s'est repenti, qu'on a plaidé le sang, alors on peut simplement dire, ben maintenant je renonce, je brise cet accord que j'ai fait. Et après de là, alors on peut bénir et on peut appeler le nouveau et recevoir ce que le Dieu fait. Et donc nous nous sommes retrouvés, alors c'était vraiment formidable parce qu'on s'est retrouvés avec une oratrice que eux ont rencontrée chez Henning, donc dans leur école prophétique qu'ils font de temps en temps, ou même pour les Huguenots, ils font des rassemblements dans les Cévennes pour les Huguenots, et du coup ils l'avaient invitée et il s'est trouvé qu'en plus elle était hispanophone, donc après coup moi j'étais, voilà. Mais surtout ce qui était formidable, c'est qu'elle enseignait, mais en même temps c'est un peu comme ici, on était en famille et on pouvait poser des questions, échanger. Et ça, ça a été tellement précieux, n'est-ce pas Agnès? De se retrouver avec des Allemands, des Suisses, qui étaient là aussi, et nous, Français, et on a eu des retrouvailles. J'ai retrouvé quelqu'un qui était là, d'ailleurs on ne s'est pas reconnu, il m'a dit, mais oui, mais en 2018, à Scaladeo, il y avait une journée qui avait été organisée, réconciliation France-Allemagne. Je dis, bah oui, je sais, c'est nous qui l'avions organisée. Oui, mais, puis il me dit, etc. Oui, mais Manuel Bussière. Je dis, bah oui, c'est moi. Il me dit, comment ça, c'est vous? Alors il éclate de rire, mais tu as changé de coupe et de couleur. Et après, je dis, mais toi, tu es qui? Et il m'a fallu plusieurs heures pour réaliser qui c'était. En fait, c'est un procureur qui parle bien français, qui est allemand, et qui à l'époque, en 2018, on avait essayé de se rencontrer. On avait dit, mais il faut absolument qu'on se retrouve, qu'on puisse mieux se connaître. Et on avait fait plusieurs essais, et puis ça n'a pas marché. Et puis du coup, bah voilà. Donc du coup, j'ai de nouveau son nom. Il me dit, bah la prochaine fois, il me dit, c'est que c'était trop tôt, mais on va se retrouver. Et donc ces gens nous ont dit, quand on va venir, quand vous ferez, prierez pour chez vous, bah nous, on viendra aussi. Et alors là, je repense à l'image qu'a eu Alice plusieurs fois, plusieurs choses que nous, on a fait en allant prier sur les sommets, Mais je vais vous rappeler que quand un chasse 1000, deux en chassent 10 000, donc quand deux nations se retrouvent ensemble, eh bien sûr ça décuple, et c'est ce que le Seigneur disait, si vous vous tenez ensemble, il y a cette autorité supérieure, cette autorité qui va être, en plus les trois frontières, c'est comme Dieu nous donne une autorité européenne en fait. Et c'est ce que l'on a pu voir, d'ailleurs je voudrais redire, on a été pas mal avec André Desbénets quand ils ont fait du rachat de la terre vers Strasbourg, et Claude Gentner nous disait, mais en fait l'Alsace est une terre d'innovation. Si l'on regarde dans l'histoire, beaucoup de choses ont été initiées en Alsace, même dans l'industrie et dans beaucoup de choses. Et je repensais à ça, je disais, mais innovation, ça veut dire en premier. C'est-à-dire qu'ils passent devant, comme cette flèche. Et nos trois nations ensemble, elles sont vraiment appelées à conduire. À conduire, normalement, dans le plan de Dieu, c'est ensemble, où on fait une ouverture. L'Europe, après la guerre, est née en Alsace, en fait, avec des Allemands, et ça s'est fait en Suisse. Mais voilà. Donc, simplement, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais c'est des plans de Dieu dans lesquels on veut vraiment rentrer. Donc Dieu nous a confié une responsabilité d'un lieu géographique. Et je crois qu'en tant que communauté, il est important que l'on sache que ce n'est pas juste une lubie de l'un ou de l'autre. Non, c'est Dieu qui nous a voulu ici à Guebwiller, avant même qu'on sache qu'on habiterait Guebwiller. Dieu a dit, voilà, je veux que vous ouvriez un lieu. Donc c'est lui qui nous a placés dans ce lieu géographique et nous en sommes ensemble les sentinelles. Alors les sentinelles, c'est merveilleux dans le Seigneur, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est des tabernacles, c'est des lieux d'adoration, c'est des lieux où on l'invite et où sa présence vient et demeurer. Donc c'est ce que l'on fait déjà et que l'on veut continuer à faire. Et après, il y a une chose qui a été dite pendant ce week-end, qui m'est revenue après coup Agnès, c'est que Dieu veut épouser sa terre. Il nous demande d'épouser notre terre. Et finalement, ce qu'il avait dit pour Israël, avec le peuple d'Israël, parce que Israël c'était sa terre, Dieu l'a appelé et dit ta terre ne sera plus appelée délaissée, mais épousée. Et je réalisais que c'est ce qu'on fait nous, avec notre bonne terre d'Alsace. Qu'on soit né là, qu'on ait du sang alsacien, mais qu'on soit résident, nous avons cette autorité pour porter cette terre, pour entrer dans la repentance et recevoir la guérison et pouvoir dire à notre terre, tu es épousé, tu n'es plus délaissé, tu n'es plus orpheline. Et Fabienne Ponce disait souvent, à chaque fois qu'un cœur est restauré dans ses racines, la terre l'est aussi. Et je voudrais là parler aussi des la charte du silence. Il y a maintenant deux séminaires qui ont eu lieu à Scaladeo, je sais que Agnès a pu y aller. Et ça fait partie de cette restauration. Et nous avons, comme par hasard, bien sûr, les Klein, hein, Julie Klein est, qui a épousé Fabrice Klein, donc c'est des Klein. Et Fabrice, qui est vraiment franco-allemand, qui est maintenant aussi celui qui porte, maintenant on va bientôt fêter les 20 ans, je crois, hein, de 15 ans du partenariat franco-allemand. Et c'est incroyable comment Dieu a incarné ces choses. Donc lui, il voit, nous on voit juste des petits bouts, mais en fait, si l'on regarde, ça fait partie de qui nous sommes. Et donc et l'autre chose dont il faut se souvenir aussi, c'est que la terre soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Parce que comme on l'a entendu tout à l'heure, parce que Anne a donné, les cieux sont remplis de provisions. Il y a tout ce dont nous avons besoin. La seule chose que le Seigneur cherche, ce sont des portes. Nous sommes individuellement une porte du ciel. Quand nous marchons dans l'Alliance, il nous faut vraiment réaliser de plus en plus que le ciel marche avec nous. Ça veut dire que toutes les provisions célestes marchent avec nous. Quand on est dans cette intimité avec lui et qu'on ne fait pas nos propres plans et nos propres pensées, mais qu'on le suit lui dans l'obéissance, dans ce qu'il nous demande, d'aller vers les pauvres ou le voisin ou un frère ou une sœur ou un enfant. Peu importe, mais quand nous sommes dans l'obéissance, le ciel est avec nous et nous sommes cette porte par laquelle le ciel peut se déverser. C'est valable individuellement et c'est valable en tant que communauté. Et il y a des grandes réserves dans le ciel qui sont là pour notre région. Avant d'y aller dans la voiture, on a mis 2h15 Vito pour y aller. Je te dis pas, le GPS nous a baladés. Mais c'était pas plus mal parce qu'on n'est pas allé se geler à la première partie où paraît-il ils ont eu très froid. Et on a eu le temps de longtemps échanger. Et on se disait avec Agnès, waouh, le thème c'est racheter la terre. Je dis, mais avec tout ce qu'on sait, les projets que Dieu a et qu'il veut faire descendre, bah peut-être qu'on va avoir la réponse. Et effectivement, ça nous a beaucoup conforté de revoir simplement concrètement comment fait-on pour que ce qui est dans le ciel descende sur la terre. Alors c'est très simple. Par exemple déjà, quel est l'objectif que Dieu nous donne? Il faut une stratégie, mais avant une stratégie, c'est quel est l'objectif? Qu'est-ce que le Seigneur met sur nos cœurs? Qu'est-ce que nous pensons qu'il a? Prions pour ça, demande-lui. On ne va pas, nous, les inventer, les objectifs, mais dire, mais Seigneur, en tant que communauté, quel est ton objectif? Quelles sont les choses que tu veux que nous fassions? Et quand ça, on le reçoit, et quand c'est là, à ce moment, on dit, bon, bah, quelle stratégie va-t-on mettre en place pour atteindre ces objectifs? Et donc déjà ça, bon ben là c'est pas le thème de ce matin, mais ça nous a bien parlé et des choses, on a donc prié sur le mont Candel, on s'est complètement joint à eux, et ce qui était intéressant c'est qu'après à la fin il y a eu, on a libéré choses, on a prophétisé sur ce mont et on a prié tous ensemble, donc Suisse, Allemand et nous Français, Alsaciens, on a prié pour la France, pour l'Alsace, on a prié pour la Suisse, on a prié pour l'Allemagne. Et depuis, bah, chez nous, ça se réveille. Hein. C'est pas le temps hein, ce matin, mais des choses se sont dénouées. En particulier, je vais quand même vous le dire, par rapport au parrainage, par rapport à Caleb AFP. Parce que Caleb AFP, c'est la coquille pour accueillir les projets de Dieu. Et hier, en parlant avec Anna, j'ai dit, ça y est, je sens que ça démarre. Ouf, il était temps. Mais ça sera un autre temps. Donc, voilà, c'était un temps glorieux. Ça n'est pas le dernier. Comme je le disais tout à l'heure, on a déjà prié, on a fait ces marches d'intercession, mais ça fait Alice un moment qui dit, mais moi je vois qu'on devrait aller reprier, mais ensemble, avec eux, sur telle montagne, et ça dégage parce qu'il y a une autorité plus grande quand les trois nations sont ensemble. Et Vito, tu l'as dans le mille, tu penses où est-ce qu'ils veulent aller prier? Au ballon d'Alsace, celui qui est plus vers Belfort là-bas. Et c'est là-bas qu'ils aimeraient aller prier avec nous. Donc, en son temps, quand nous on l'aura, eh bien, ils sont là et dites-le nous, nous viendrons aussi. Oui, tu veux rajouter quelque chose, Agnès? Chauffard. Il y a eu les chauffards. Alors c'était intéressant parce qu'il a plu des cordes toute l'après-midi, avant qu'on monte au Mont Candel. Et bien sûr, peu avant qu'on parte, eh ben, ça y est, la pluie s'est arrêtée. On était dans la brume, donc nous sommes montés dans la nuée. Et puis là, voilà, donc on a prié et tout, puis après les chauffards ont sonné. Et le lendemain matin, tout était blanc. La forêt blanche. Ah oui, le Mont Candel, c'est... Ah oui, alors autre chose, si, une image, et d'ailleurs qui a été redite, je ne sais pas où je l'ai entendue tout à l'heure. Quand on a prié pour le Mont Candel, quelqu'un voyait comme du pied du Mont Candel les sources d'eau qui coulaient, qui jaillissaient. Et pour plusieurs, on a vu qu'il y avait la forêt noire et les Vosges, et que, c'était toi, je crois qu'il disait, c'est comme quand Jésus est venu sur le mont des Oliviers va se séparer en deux, et il y aura cette grande vallée, et nous, c'est comme si on avait les deux montagnes, et quand au milieu, il y a cette vallée avec la vallée du Rhin, cette plaine d'Alsace avec la vallée du Rhin, et l'eau qui, on a vu l'eau qui coulait et qui allait irriguer toute, qui coule sur toute cette plaine d'Alsace, jusque de l'autre côté. Donc ça, c'est une image très forte que j'avais notée aussi, qui pour moi est importante. Donc voilà, on est dans ce temps, et je voulais finir aussi, parce que j'ai recherché du coup la parole, l'histoire que tu avais écrite en 2018, où tu disais que Dieu bâtit sa maison sur le Rhin, et du coup bien sûr ça aussi on l'a partagé, il dit mais la maison, une maison sur le Rhin, eh bien ce sont des pierres vivantes, c'est eux, c'est nous, c'est chaque fils et fille de Dieu qui se tiennent ensemble, et donc cette maison elle se bâtit. Elle se bâtit, elle, depuis 2018, on voit qu'elle s'élève et on veut rester attentif et bien nous souvenir que nous sommes sentinelles et fils et filles sur cette terre. Et une une chose aussi qui m'a touchée, je ne sais plus qui l'a dit, bah c'était toi, que, ah oui, cette prophétesse qui est venue, elle disait l'Allemagne est prophétique. Alors sur le coup, j'y commençais un nom, normalement c'est la France qui est prophétique, et l'Allemagne qui est apostolique. Et puis là, je crois que c'est toi qui as dit, mais Pierre-Daniel Martin a dit récemment que l'Allemagne est apostolique prophétique et la France, elle est prophétique apostolique. Et nous sommes vraiment, et c'est là où on voit, et c'est ensemble, et ça c'est très bien écrit dans l'histoire qu'a écrit David sur cette maison du Rhin, c'est que les deux, on est tellement complémentaires, et je pense que, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Alsace, mais Mulhouse-Bâle par exemple ont été vraiment liés pendant 200 ou 300 ans, je veux dire, c'est une terre qui a été brassée des deux côtés, qui a été tellement blessée, puis comme on le disait, comme l'avait dit Martin Scott, quand on sort de ses blessures et qu'on libère le pardon, on a une autorité particulière que Dieu nous donne pour bénir. Donc nous sommes une région bénie et appelée à bénir les autres et bénir les nations qui nous entourent.
Quelques mots donnent la suite de cet éclairage sur la terre que nous a donné Manuela, de racheter la terre, de prier pour la terre. Nous sommes dans la période de Noël, c'est Dieu qui s'incarne et qui vient sur la terre. Donc cette notion de terre est importante. J'aimerais donner quelques points, nous rappeler, Dieu est le Dieu du ciel et de la terre. Lorsque Abraham a été visité par Melchisédek lui a dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Dès l'origine, on voit que ce n'est pas le Seigneur du ciel seulement, c'est le Seigneur de la terre. Sa souveraineté s'étend sur toute la terre. Et puis, aussi, la terre lui appartient. Dieu est le juge de la terre. Dieu est le roi sur toute la terre. Je vous fais grâce de tous les versets qui insistent là-dessus. Il remplira les cieux et la terre. La fin de l'histoire, c'est quand Dieu remplit toute la terre. Voyez. Et Moïse, un combat avec Pharaon, afin qu'il reconnaisse que la terre est à l'Éternel. Nous sommes dans Exode 9. Donc, voyez, le rôle de l'homme sur la terre, vous connaissez Psaume 115, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, lorsque Manuela parlait de la responsabilité de la terre, des régions, c'est tellement important, c'est le Psaume 115 qui le remplit. Dieu veut que l'homme remplisse la terre. Rappelez-vous, le couple, la multiplication, c'est pour remplir la terre. Alors il y en a qui disent oui, c'est pour peupler le ciel. Oui, mais n'oublions pas que c'est les deux. C'est remplissez la terre, assujettissez-la. Toutes les richesses de la terre sont pour l'homme. Genèse 1, etc. Donc remplissez la terre. Dieu a façonné l'homme comment ? Avec de la terre. Avec de la terre. Et Dieu marchait sur la terre avec Adam et Ève. Dans le jardin, il marchait avec eux. C'est ce que la Bible nous dit dans Genèse 3. Et puis, on sait aussi que la terre, elle peut souffrir. Manuel l'a rappelé, Romains 8, elle soupire. Elle peut être maudite quand il y a du sang qui a été versé. Il y a une malédiction. Et c'est pour ça que le rôle de la sacrificature, c'est d'appeler la bénédiction et la réconciliation. Et la circulation de la bénédiction, imaginez un peu. Dieu bénit la terre, d'accord ? Dieu bénit les hommes et il bénit la terre. Beaucoup de passages là-dessus. L'homme, lui, est appelé à bénir Dieu, mais à bénir la terre aussi. Et donc, en fait, la bénédiction est appelée à circuler entre Dieu et les hommes et la terre et Dieu. C'est cette circulation de la bénédiction qui est vraiment importante, et la terre aussi est une source de guérison. Rappelez-vous, lorsque Jésus, devant un aveugle, avec sa salive, il prend de la terre, et il la met sur l'œil et il y a guérison. Donc, Jésus avec la terre, source de guérison. Jean 12, en vérité je vous le dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce qui se passe dans cette terre ? La multiplication. Donc la terre est une source de bénédiction. Dans Deutéronome 27, Dieu dit, si tu obéis à ma voix, voilà toutes les bénédictions. Et les bénédictions, c'est tu seras béni dans les champs. Dans les champs, dans la ville, si tu écoutes la voix de l'Éternel, le fruit de ton ventre sera béni, le fruit de ta terre, le fruit de tes bêtes, etc. Donc on voit l'importance de la terre. Psaume 65, tu as visité la terre, tu l'as abreuvée, tu l'enrichis abondamment, le ruisseau de Dieu est plein d'eau, tu prépares les blés, quand tu l'as ainsi préparé. Tu arroses ses sillons, tu as plani ses mottes, tu l'as molli par des ondées, tu bénis son germe, tu couronnes l'année de ta bonté, et tes sentiers distillent la graisse. Ils distillent les pâturages du désert, les collines se saignent d'allégresse, les prairies se revêtent de menu bétail, les plaines sont couvertes de froment, elles poussent des cris de triomphe, elles chantent, la terre, les plaines, poussent des cris de joie vers Dieu, toute la terre. Donc dans les Écritures, la terre, elle loue Dieu aussi. Elle loue Dieu. C'est assez étrange, mais vous savez que ça rejoint les dernières découvertes qui ont été faites. Je pense par exemple, est-ce que vous savez que les arbres conversent entre eux? Les arbres parlent entre eux. Donc ça, c'est là, au niveau de dernières découvertes au niveau de la biologie végétale. La botanique, il y a un botaniste qui s'appelle František Baluska, alors c'est de l'université de Bonn. Il a dit, il y a des similitudes entre les racines et le cerveau, ça va très loin, sur le plan structurel et moléculaire. Il parle de neurobiologie végétale. Alors, les plantes auraient une sensibilité à la musique, on le sait, hein, une mémoire même, un esprit de famille. Alors c'est étonnant. D'autres études montrent que l'arbre possède le sens du toucher, qu'il aurait la perception de la configuration de son propre corps dans l'espace. D'autres études démontrent encore que les arbres sont capables de percevoir les sons et des odeurs, de distinguer leurs voisins, de communiquer avec eux grâce à une série de capteurs. Et pour compenser leur vie immobile, les plantes ont développé des mécanismes pour percevoir et répondre à leur environnement. Elles peuvent détecter la présence de leurs voisines, modifier leur croissance en conséquence. Et dans cette communication entre plantes, les messages sont envoyés grâce à la sécrétion de molécules dans les racines. Et ces signaux souterrains renseignent les plantes sur leur environnement, les aident à diriger la croissance, leur croissance, pour éviter de toucher les autres arbres. Voilà. C'est un phénomène qui s'appelle la timidité des cimes. C'est-à-dire on ne veut pas tout prendre à l'autre, tout le ciel, donc on veut lui laisser une partie. Donc ça s'appelle la timidité des cimes. Et c'est des messagers chimiques qui sont utilisés pour ça. Donc les prophètes connaissaient ça. Les prophètes dans les Écritures, Ésaïe, les arbres, ils louent le Seigneur, etc. On voit. Alors, Dieu n'est pas dans la nature. La nature exprime quelque chose de Dieu. Elle est une marque de Dieu. Mais il y a la vie végétale, la vie animale. Il y a la vie. Et lorsqu'il est dit, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Les montagnes et collines éclateront d'allégresse. Les arbres de la campagne battront des mains, ce qu'on a chanté tout à l'heure. Les arbres de la forêt poussent des cris de joie. Nous sommes dans Ésaïe 55, 1 Chronique 16, Ézéchiel 31. Tous les arbres d'Éden, écoutez ça, Ézéchiel 31, ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Les arbres ont été consolés. C'est assez impressionnant tous ces passages. Et Salomon qui parle sur les arbres, un roi 4, etc. Donc la terre, c'est une caisse de résonance qui fait écho à la voix de Dieu. Et écouter la terre, c'est aussi écouter Dieu qui parle au travers de la terre. C'est pas la terre qui parle directement, mais c'est Dieu parle au travers de cette terre, et il y a une résonance, il y a des résonances. Lorsqu'il est dit la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre. La terre est sensible à la justice, la terre est sensible à la fidélité, la terre est sensible à l'adoration. Vous voyez, donc c'est important, et le sang de Jésus, il est suffisant pour guérir, bien sûr, les hommes. Et quand un homme est guéri, eh bien, ça touche la terre aussi. Donc, nous sommes tous dans ce même monde, cette même création. Voilà, donc, prendre notre héritage, Josué, rappelez-vous, nous sommes l'église Josué. Dans Josué 3, c'est étonnant. À plusieurs reprises, voici ce que Josué dit. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre. Va passer devant vous. Dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que le sacrificateur qui porte l'arche d'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain sont coupées. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'appel de Josué, c'était de prendre du terrain, de prendre la terre que Dieu avait donnée, mais il fallait la prendre. Et donc, il fallait pour ça une révélation de Dieu, du Dieu de la terre aussi. Sans révélation du Dieu de la terre, on ne prend pas l'héritage terrestre. Parce que Dieu a un héritage céleste, bien sûr, pour nous tous, mais il y a un héritage terrestre. Et donc, on a besoin d'une révélation d'un Dieu de la terre. Acte 17, il a fait en sorte, Dieu, que tous les peuples issu d'un seul homme, habite sur toute la surface de la terre, il a déterminé la durée des temps, les limites de leur lieu d'habitation. Dieu s'intéresse aux frontières, Dieu s'intéresse aux limites, etc. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Josué, je te le donne. Et puis il décrit les limites d'Israël. Donc Dieu est un Dieu de terre aussi, Seigneur de la terre. Et dans le tabernacle de David, quand on fait des tabernacles, Amos chapitre 9, il est dit ceci: en ces temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, ça parle d'Israël, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des hommes sur toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Donc il y a un lien entre la maison de David, le tabernacle de David, ça parle d'Israël, mais ça parle de l'adoration aussi. Il y a un lien entre les deux. Restauration de la terre, restauration de l'adoration, autel d'adoration. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais nous sommes appelés à déboucher les puits. À déboucher des puits. Et j'aimerais terminer. Alors, le conseil est déjà au courant. On va pouvoir peut-être mettre la... C'est ici, je crois. Voilà. Et donc, je vais vous présenter en scoop. Voilà, un jour, je me promenais vers à côté d'ici. Voilà, donc, à Bulle, vous savez qu'il y a, il y a beaucoup de balades à faire. Et il y en a une, que si vous ne l'avez pas faite, il faut la faire. C'est la balade vers Murbach. Donc, un jour, j'étais assis sur le banc devant Murbach, là. Et puis, vraiment, cette terre m'a parlé. Cet héritage m'a parlé, la terre m'a parlé. Et j'aimerais vous lire ça. Donc les photos, la plupart c'est David Lee qui les a faites. Et pourquoi pas publier ça, on verra. Donc voilà, c'est quand vous rentrez, hein, vous avez cette image de cette abbaye de Murbach. Et je vais simplement lire le texte. Murbach, joyau des temps passés qui défie mon présent. Entouré de montagnes, comme au creux d'une main, au fond de la vallée, tu défies les temps. Des choses essentielles, tu te poses en témoin, et des choses éternelles, tu déposes une trace. Semence mise en terre, trésor caché d'Alsace, graine de vie plantée, soigneusement enfouie, certainement un jour, tu porteras ton fruit. Murbach, pierre rose, assemblée, s'élançant vers le ciel, taillée, entrelacée, emboîtée, ajustée, ses frères qui s'embrassent, ses amis éternels, forment cet édifice si bien coordonné. Temple saint du Seigneur qui traverse les âges, dont chaque pierre crie aujourd'hui un message. Tes flèches de granit qui pointent vers le ciel sont comme ces deux mains qui prient l'Éternel. Murbach, ton élégante nef devenue cimetière, nous rappelle aujourd'hui une gloire passagère. Mais toutes ces louanges montées vers le roi restent encore audibles pour ceux qui ont la foi. Ces lointains murmures qui nous parlent de toi nous susurrent toujours que tu règnes ici-bas. Tous tes murs, le matin, inondés de lumière, dorés par le soleil, incitent à la prière. Murbach, c'est en Irlande que tu as été conçu. C'est le rêve de Dieu que des moines ont reçu. Projet de guérison de tout un continent, de paix, d'espérance et de rétablissement. Ils ont traversé les mers pour féconder nos terres et semer l'espérance au sein de la misère et multiplier les œuvres de compassion et labourer l'Europe, enseignant les nations. Murbach, sans jamais se lasser sur plus d'un millénaire de ces sombres forêts, ils ont fait des jardins. Ils ont ôté les pierres, effrayé les chemins. Ils ont planté des vignes, bâti des sanctuaires, illuminé les cœurs, répandu la lumière. Fait jaillir du désert tant de sources prospères. Comme un lointain écho, j'entends cette prière. Notre Père, que ton règne vienne sur la terre. Murbach, maison de formation, maison d'adoration, où ta parole fut aimée, chantée, priée, pain de l'humanité, pain de fraternité, transmis de génération en génération, parole récitée, parole enluminée, méditée, recopiée, sans cesse proclamée, maison de transmission, où toute connaissance produit le précieux fruit de la reconnaissance. Murbach, sous tes anciens portiques résonnaient les cantiques. Adoration constante, louange magnifique, accompagnant toujours les études fécondes qui nourrissaient les hommes et soutenaient le monde. En ces lieux reculés, quelque peu austères, tant de fils et de filles ont entendu le Père, des enfants éduqués, des enfants préparés, des enfants élevés aux grandes destinées. Murbach, tes deux tours élancées en sœurs inséparables, célèbre des alliances aujourd'hui improbables, la foi et la raison, l'étude, l'adoration, le Créateur reconnu dans sa création, la vérité, la grâce, enfin entrelacées, la tête avec le cœur, enfin réconciliées, toute la terre aimée et le ciel désiré, l'édifice tout entier célèbre la beauté. Murbach, ces deux sœurs côte à côte célèbrent l'harmonie, la culture des champs, la culture de l'esprit. Tant dans la création, tout dans la création, tout nous conduit à lui, parfaitement distinctes, parfaitement unies. Ces échelles de pierre qui s'élancent de terre nous rappellent ici-bas que le ciel est ouvert, que les choses d'en haut, justice, paix et joie, sont des cadeaux que l'on peut saisir par la foi. Murbach, il ne reste que peu de tes grands bâtiments qui témoignent encore de l'immense vaisseau. Immobile devant l'antique monument, j'entends le vent de l'esprit me souffler ces mots. Crois, tu relèveras les fondements antiques et tu déboucheras les anciens puits celtiques. Répareras les brèches, les chemins et les vies. Aie foi, tu rendras habitable ce pays. Murbach, entends-tu ce doux bruit ? C'est la terre qui soupire, qui gémit ardemment. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? C'est l'entier renouvellement qu'est le désir, le puissant avènement des fils qu'elle attend. Le jour viendra où la création tout entière sera enfin libérée de toute misère, goûtant avec les fils et les filles de Dieu la liberté parfaite qui ne vient que des cieux. Murbach, oui, les anciennes sources bouillonnent encore et les anciens parfums aux effluves subtils embaument chaque cœur dans ces terres fertiles. Doucement, dans la nuit, ils annoncent l'aurore, enveloppant toujours ces antiques sentiers où la voix du berger nous invite à marcher et nous pousse plus loin vers de nouveaux chemins déjà tout tracés jusque dans l'éternité. Voilà cette terre d'Alsace, cette terre de Murbach qui nous parle. Et je sens, je pense que vous sentez, mais il y a un appel de l'esprit à aimer notre terre et à appeler la bénédiction. Il y a des sources en bas qui doivent jaillir aujourd'hui. Et chaque fois qu'on loue Dieu, il y a un bouillonnement qui se fait. Et Isaac, il avait dû déboucher les puits. Son père avait creusé des puits et l'ennemi avait bouché un après l'autre, après l'autre. Et Isaac a débouché un puits, deux puits, trois puits, quatre puits, jusqu'à ce que l'eau jaillisse. Et nous sommes en tant qu'Église appelés à déboucher les puits de l'éducation dans cette région, les puits de l'adoration, les puits d'une agriculture qui respecte la terre, etc. Et nous sommes en train de le faire. Et je me rappelle un jour, un tabernacle, nous étions avec Vito et toute l'équipe, rappelez-vous, il y a eu ce mouvement de corporatif où on creusait, puis on faisait jaillir l'eau. On faisait jaillir l'eau, on creusait le puits. C'est ce que nous sommes encore appelés à faire. C'est ce que Manuel a fait avec Agnès et cette équipe d'intercession. C'est ce que nous pouvons faire dans l'adoration. C'est ce que nous pouvons faire dans l'écriture, dans les arts, dans les lettres. Nous sommes appelés à déboucher les puits de bénédiction dans cette région. Amen.
En entendant Luc, je voudrais encore juste partager cela. Je sais que j'avais l'habitude de voir toujours la France en noir et Luc disait toujours « Mais arrête de parler comme ça de la France !» Et c'était, je pense, il y a maintenant au moins 4, peut-être 5 ans, parce qu'on était encore au château. C'était une nuit où les choses commençaient déjà à bien se dégrader et j'entends clairement le Seigneur me dire « Ne lâche pas la France, mon sang est plus que suffisant pour cette nation. » Et du jour au lendemain, poum ! Depuis, je vois la France belle. Et je dis ça pour qu'on fasse attention à nos regards. Quand nos regards sont négatifs, ça veut dire qu'il y a encore de l'incrédulité quelque part à laquelle il faut renoncer. Et vraiment, croire ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que le sang de Jésus est plus que suffisant et que c'est la justice de Christ dont nous avons hérité, que ça n'a rien à voir avec nos mérites, mais les siens seuls. C'est pour ça qu'on a rechanté ce matin « À toi toute la gloire ». Nous n'avons aucune gloire, nous n'avons aucun mérite. Qu'on se le dise bien, qu'on se le rappelle et qu'ensemble nous nous glorifions de ce que Christ a fait par la croix. Lui seul a vu et lui seul a payé le prix et le prix parfait. Et à chaque fois que nous regardons négativement, nous rendons la croix invalide. Et nous disons « Christ a souffert pour rien ». Donc on veut être de ceux qui croient et qui disent « on veut tout reprendre ». Il dit « réclamez-moi les nations, je vous les donnerai en héritage ». Donc ça c'est la bonne nouvelle de Noël.
C'est vraiment important, si notre regard ne pas fixé sur les choses précieuses, on condamne. Et c'est une des raisons pour lesquelles les sacrificateurs avaient un pectoral avec des pierres précieuses. Quand ils étaient en tant que sacrificateurs, peu importe les péchés de la nation, ils avaient des choses précieuses avec eux. Ils devaient regarder ce que Dieu voyait, ces choses précieuses qui étaient mises dans l'or. Si tu ne vois pas ça, tu amènes la condamnation et le jugement et c'est fini. Et c'est tellement important.